Vous écoutez On lit pour vous.
Compte Google, système Curam et point d'accès mobile. Un texte d'Alain McKenna, paru le 4 mars 2026 dans La Presse. Un lecteur, Jean-Paul Desrochers, demande « Quand je me connecte à CNN via Safari sur Mac, une petite fenêtre s'ouvre et indique « Vous utilisez votre compte Google pour vous connecter à CNN. » En lisant ce message, le néophyte croira être devant un fait accompli, alors que ce n'est pas le cas. Sommes-nous ici devant une mauvaise traduction volontaire? Ce n'est ni une erreur de traduction ni un fait accompli. C'est une stratégie commerciale agressive qui ressemble à une interface truquée ou « dark pattern ». Votre impression de contrainte est exactement l'effet recherché par Google. Mountain View tente de s'imposer comme votre passeport numérique universel. Le message joue sur l'ambiguïté du présent de l'indicatif pour vous inciter à cliquer par réflexe. En réalité, rien n'est connecté tant que vous ne touchez pas au bouton. Imaginez un valet qui surgit devant chaque porte de magasin pour vous l'ouvrir. Il semble serviable, mais son but réel est de noter vos allées et venues dans tout le centre commercial. Si vous acceptez cette connexion, Google saura exactement quels articles vous lisez sur CNN, ce qui enrichira le profil publicitaire qu'il fait de vous. Vous pouvez virer ce valet dans les paramètres de votre compte Google, section « Sécurité », et désactiver l'option « Invite de connexion au compte Google ». Un lecteur, Patrice Maltais, demande « Comment peut-on dépenser autant d'argent sur un projet comme Curam? Disons que les gens sont payés en moyenne 100 $ l'heure pour travailler sur ce projet. Ça fait des millions d'heures travaillées, l'équivalent de 1885 personnes qui travaillent sur ça à l'année. Ça ne marche pas! » Hélas, l'informatique gouvernementale ne répond pas aux lois de la physique, mais à celles de la bureaucratie. Le nœud du problème n'est pas le salaire des techniciens. C'est la nature même du contrat. Imaginez acheter un costume très cher en magasin pour ensuite payer une armée de tailleurs afin de le découdre et de le recoudre complètement parce que votre corps a une forme unique. C'est pas mal ce qui se passe ici. Le gouvernement a acheté une solution commerciale rigide pour gérer des programmes sociaux aux règles complexes et anciennes. Adapter le logiciel nécessite une personnalisation extrême. Chaque exception à la loi exige du code sur mesure. C'est là que l'argent s'évapore. Une grande partie de ces millions ne va pas dans les poches des humains, mais dans les coffres de géants informatiques pour les droits de licence. On paye le droit d'utiliser l'outil avant même de s'en servir. Ajoutez la lourdeur administrative et pour chaque heure de programmation réelle, il y a probablement 3 heures de réunion et de rapport. C'est un problème de gestion de projet qui, l'actualité en témoigne, n'est pas nouveau au sein des organisations publiques. Un lecteur, Sylvain Saint-Jean, demande « En voyage, je branche ma tablette en Wi-Fi sur mon téléphone pour accéder à Internet. Est-ce sécuritaire? » C'est le meilleur moyen de créer votre propre forteresse numérique portative. Le partage de connexion transforme votre téléphone en routeur privé. Contrairement au Wi-Fi de l'hôtel ou de l'aéroport, cette connexion exige un mot de passe pour y accéder, et son signal profite du chiffrement robuste des réseaux 4G ou 5G. Pour un pirate, assis 2 tables plus loin, votre tablette est invisible. Il ne peut pas s'interposer entre elle et votre téléphone pour intercepter vos communications bancaires ou vos courriels. Le vrai danger ne menace pas vos données, mais votre portefeuille. Une tablette est gourmande en données Et si elle pense être sur un réseau Wi-Fi illimité, elle risque de lancer des mises à jour lourdes ou de synchroniser vos photos haute résolution. Si votre forfait d'itinérance est limité, activez le mode de faibles données dans les réglages de votre appareil. Sinon, c'est la meilleure façon de naviguer loin de la maison. C'était compte Google, système QRAM et point d'accès mobile. Un texte d'Alain McKenna, paru le 4 mars 2026 dans La Presse.
Le mythe de la neutralité de la technologie avec Jacques Ellul, E2LUL. Un texte d'Antoine Chamberlain, qui est géographe de formation. Texte publié dans Le Devoir du 29 novembre 2025. Internet et les technologies numériques semblent désormais former le socle de l'expérience humaine. Aucune dynamique sociale, culturelle, économique et politique n'échappe à leur emprise. Le processus d'informatisation du monde, bien qu'inachevé, semble assez avancé pour que nous ne soyons désormais plus aptes à imaginer un monde déconnecté et sans numérique. D'un côté, nous sommes collectivement emballés par les promesses des innovations technologiques telles que les modèles génératifs de langage, communément et erronément appelés « intelligence artificielle », et de l'autre, nous sommes terrifiés par les dangers causés par nos ambitions prométhéennes, tel un docteur Frankenstein tétanisé par le potentiel destructeur de sa propre création. Pour sortir de cette impasse, la réponse la plus courante consisterait à développer un meilleur numérique pour faire contrepoids aux mauvaises intentions de certains grands acteurs de l'industrie qui chercheraient à marchandiser notre temps de cerveau disponible. Cette réponse face aux risques que pose le numérique illustre parfaitement les œillères avec lesquelles nous regardons toute question technologique. En la matière, le travail du penseur technocritique Jacques Ellul peut nous aider à avoir une vision systémique du développement technologique qui nous montre comment il est illusoire de penser pouvoir un jour départager le bon du mauvais en matière de numérique. Pensée systémique. On a dit que le plus grand drame dans la vie de Jacques Ellul était celui d'avoir eu raison trop tôt. Au regard de notre époque numérisée et connectée, il apparaît difficile de comprendre pourquoi une pensée aussi riche passe encore sous le radar des courants dominants de la pensée critique. En effet, le contenu du « bluff technologique », son dernier ouvrage, paru en 1988, synthèse de sa pensée sur la technique, nous apparaît encore d'une troublante actualité. Selon lui, la technique, il préfère le terme « technique » à « technologie », qui fait plutôt référence à la pensée de la technique, s'érige en système en produisant non seulement des objets et des processus, mais également une pensée et des discours qui font du progrès technique une fin en soi plutôt qu'un moyen. Un des éléments de discours produits par le système technicien les plus répandus est que le progrès technique serait inéluctable et que nous n'aurions qu'à nous y adapter. Pour illustrer ce discours fataliste, rapportons cette citation attribuée au tristement célèbre mathématicien John von Neumann, artisan de la bombe atomique et des massacres d'Hiroshima et de Nagasaki, ainsi que de l'informatique moderne. Citation : Ce que peut faire la technique est irrésistible pour l'homme. S'il peut aller sur la Lune, il ira. S'il peut changer le climat, il le fera. » Fin de citation. Bien qu'exprimé presque caricaturellement, ces propos résument à eux seuls la puissance du système technicien qui produit une idéologie identifiant le progrès technique comme objectif premier de l'humanité, sans qu'on ait besoin de le justifier. Dans ce système technicien autodéterminé, faisant fi de la pertinence ou non de développer une technique, l'humain a comme étant, citation, tellement fasciné par le kaléidoscope des techniques qui envahissent son univers, qu'il ne sait et ne peut vouloir rien d'autre que s'y adapter complètement. Fin de citation. Cette injonction à l'adaptation empêche tout discours de fond sur la réelle pertinence des progrès techniques et nous fait voir l'avenir de l'humanité à travers une paille. C'est cet argumentaire fataliste sur l'inévitable progrès technique qui se cache derrière le discours très médiatisé de Joshua Bengio, pionnier et sommité mondial en intelligence artificielle, qui souhaite attirer du financement pour développer une intelligence artificielle sécuritaire pour l'humanité, entre guillemets, dans le but de faire compétition à une intelligence artificielle dangereuse qui pourrait, selon lui, littéralement mener à la fin de l'humanité. On comprend alors que Bengio est convaincu que le développement de l'intelligence artificielle est inéluctable et que nous devrons coûte que coûte nous y adapter. Tout cela sous peine de potentiellement disparaître sous la puissance de ce à quoi il a lui-même contribué à créer, faut-il le rappeler. Ainsi, la seule solution pour se prémunir des risques de l'intelligence artificielle serait de développer plus l'intelligence artificielle. Il ne se fait pas mieux en matière de prophétie autoréalisatrice. Devant la fatalité du progrès technique, tout ce qui resterait à faire serait donc de départager les bons usages des mauvais usages des technologies numériques pour pouvoir bénéficier au maximum des potentialités positives tout en minimisant les négatives. Neutralité. Pour Ellul, une telle chose relève du vœu pieux. Les techniques ne sont pas des objets neutres dans l'attente qu'un humain les utilise selon son bon vouloir. Pourtant, nous avons tous sûrement déjà émis ou entendu les arguments suivants ou des dérivés de ceux-ci. Citation, l'intelligence artificielle est là pour de bon. Il faut apprendre à bien l'utiliser. Ou bien, les réseaux sociaux ne sont pas bons ou mauvais en soi. C'est ce que nous en faisons qui les rend bénéfiques ou au contraire dommageables. Fin de citation. Ainsi, il ne dépendrait que des utilisateurs de se résigner au progrès technologique et de faire émerger le potentiel bénéfique, voire émancipateur, du numérique. Rien de plus faux, selon Jacques Ellul. Le penseur technocritique a bien démontré que la technique est avant toute chose ambivalente, c'est-à-dire qu'elle contient en elle-même des potentialités positives et négatives indissociables les unes des autres. Autrement dit, quand on invente le train, on invente en même temps le transport ferroviaire et le déraillement causant la mort. En concevant le moteur à explosion, on a certes permis le déploiement d'ambulances et de camions de pompiers, mais on a également ouvert la voie à l'étalement urbain, à l'émission massive de gaz à effet de serre, à la sédentarité de masse et à la mort de plus d'un million de personnes annuellement sur les routes du monde. Ce qui compte pour Ellul, ce sont beaucoup moins les usages individuels que l'ensemble de ses potentialités sur l'ensemble de la société. Par exemple, même si quelques personnes parvenaient réellement à maîtriser leur temps d'écran, ce ne sera toujours que peu de choses par rapport au problème de dépendance globale aux appareils numériques qui ne montrent aucun signe de ralentissement. Même si l'intelligence artificielle réussissait à améliorer quelques traitements de niche en médecine, qu'en serait-il de la consommation extrême d'énergie par l'intelligence artificielle de façon globale et de l'appauvrissement des facultés cognitives et relationnelles humaines, notamment par la production massive de contenus de très faible qualité? l'utilisateur possède certes une certaine agentivité dans son utilisation d'une technique, mais on ne doit pas négliger à quel point celui-ci est transformé au contact de cette même technique, révélant ici de nouvelles potentialités encore plus imprévisibles. Comme Ellul le souligne, citation, nous ne sommes pas un sujet au milieu d'objets sur lesquels nous pourrions librement décider de notre conduite. Nous sommes étroitement impliqués par cet univers technique, conditionnés par lui. Fin de citation. Plus une technique est complexe et est mise en relation avec d'autres techniques et humains, plus les effets seront imprévisibles. C'est cette imprévisibilité qui fait que, peu importe les intentions initiales derrière la conception de la technique, l'humain ne peut que minimalement intervenir dans l'apparition d'effets néfastes ou bénéfiques dans l'ensemble de la société. Qui aurait pu prévoir l'ensemble des conséquences de la mise en marché du premier téléphone intelligent sur la vie humaine? Qui peut se targuer d'avoir pu tracer l'ensemble des résultats du développement d'Internet jusqu'à ce jour? Qu'importe les bonnes intentions d'un programmeur qui développe un code source ouvert, si ce même code sert finalement à des impératifs militaires? Au moment où la voiture a été inventée, Henry Ford et son équipe n'avaient certainement pas en tête les émissions de gaz à effet de serre qui allaient alimenter les changements climatiques, pas plus qu'ils ne prévoyaient que les voitures allaient parfois servir d'armes pour commettre des attentats contre des civils. Bref, un grand nombre d'inventions techniques en apparence totalement bénéfiques pour l'humanité peuvent se révéler néfastes, voire délétères par la suite. La complexité de nos technologies numériques, qui ne cesse de s'accroître, rend impossible pour nous de prédire leurs conséquences futures et de nous en prémunir. Pensée technocritique. Bercé par les discours fatalistes et trompeurs du système technicien, il nous apparaît impossible de remettre en question l'existence même de l'intelligence artificielle, du numérique et d'Internet, qui sont pourtant des désastres avérés en matière de consommation énergétique qui appauvrissent de façon évidente les capacités cognitives et relationnelles de l'humain, qui nous volent des années de notre vie et qui assèchent de façon générale l'expérience humaine. Ellul croit qu'il est illusoire d'espérer que les problèmes causés par des usages d'une technique seront contrebalancés par de meilleurs usages. La pensée d'Ellul nous apparaît donc nécessaire pour exposer les stratégies mortifères du tout-au-techno et sortir de notre tâche sisyphéenne consistant à chercher sans cesse des moyens de nous protéger des effets désastreux de nos propres créations. Ellul nous amène donc à adopter une posture technocritique radicale qui accepte enfin que nous n'arriverons jamais à séparer le bon grain de l'ivraie en matière de numérique. Tôt ou tard, il faudra oser remettre en question la totalité du système technicien et, pour reprendre la célèbre formule d'Ellul, le sacré qu'on lui confère. C'était le mythe de la neutralité de la technologie avec Jacques Ellul, un texte publié sous la signature d'Antoine Chamberlain dans Le Devoir du 29 novembre 2025.
Je te laisserai des mots. Un texte de Nathalie Plate, paru le 2 mars 2026 dans Le Devoir. Ils seront dans la grande bibliothèque qui parlera de notre époque à ceux qui nous suivront. Pourquoi écrire? Je sais bien, la question n'est pas originale, un peu comme la plupart des questions existentielles d'ailleurs, de celles qui nous amènent à revisiter le sens profond des choses qui nous meuvent. On vit notre existence en nous croyant ni plus ni moins uniques, parfois même un peu au-dessus de ces questions qui dessinent le pourtour de notre condition humaine et, soudainement, un matin, en marchant avec le chien, ou alors de manière plus dramatique, en cueillant nos premiers morts, nos ruptures et tous nos deuils, on vit de l'intérieur, avec une précision qui découpera le réel d'une nouvelle manière, l'existence des limites. On trébuche alors sur tout un tas de pierres qui avaient toujours été là pourtant, mais sans qu'on s'y attarde, parce qu'il y avait d'autres chemins, parce qu'il y avait des défenses qui nous empêchaient de les voir, parce qu'il devait bien y avoir, oui, d'autres façons d'éviter de nous affaler ainsi au beau milieu de notre existence. Puis il vient, ou plutôt au pluriel, ils viennent, ces instants précis où il ne sera plus possible de ne pas nous coucher un peu en nous pour nous laisser questionner par le sens de notre vie. Ce « pourquoi écrire » vient ainsi à moi comme il vient un jour ou l'autre à toute personne qui gagne sa vie, ou du moins qui essaie de la gagner, avec son art. On pourrait probablement étendre cette question à toute personne qui crée. Elle doit bien, oui, saisir quiconque consacrant le plus clair de son temps à moudre le monde au travers de son broyeur symbolique pour ensuite retourner à ce même monde quelque chose qui aurait pris dans le processus des couleurs, des mots, des mouvements qui tentent de dire ce que c'est que de vivre. Et quand on voit combien ce geste, pourtant à la base de ce qui nous fait humains, est constamment dévalorisé lorsqu'il est comparé au reste des « choses sérieuses » qui, parfois, relèvent elles-mêmes bien plus d'une forme de spéculation abstraite, on comprend que ces questions puissent devenir encore plus précipitées pour les artistes. Que ce soit par les compressions récemment annoncées dans les programmes qui amènent la culture dans les écoles ou par toutes ces autres qui, constamment, réduisent les budgets consacrés au financement des arts et de la culture à peau de chagrin, il y a bien, oui, mille et une raisons de nous demander comment un peuple pense faire tenir ensemble tout un tas de gens quand il ne soutient pas mieux ceux dont la vie se consacre à traduire des éprouvés en signes et en symboles qui ont précisément ce pouvoir, celui de nous unir les uns les autres. L'ami Félix Morin, dans la dernière édition de notre abécédaire du CARE, qu'on tient chaque mois, disait sur le mot « bibliothèque » « La bibliothèque est presque devenue un contre-lieu de nos jours, un peu comme une hétérotopie foucauldienne, un lieu en marge, souvent dévalorisé par le pouvoir, où se passeraient des choses qui ne sont plus contenues dans l'espace public. » En y pensant bien, on ne pouvait qu'être d'accord avec lui, envisageant notamment l'idée du silence exigé dans les bibliothèques, celui qui dit qu'il s'agit d'abord d'écouter l'autre par ce qu'il a écrit avant que de réagir avec du bruit. Alors, il s'agirait peut-être, pour nous qui voulons résister, de trouver la juste dose, l'équilibre subtil entre le silence et le bruit que nous émettons. Et c'est parfois là que s'inscrit en moi la question du « pourquoi écrire ?» comme si je trouvais le monde déjà assez bruyant ainsi, sans qu'il ait besoin d'une voix de plus. Et comme chaque fois que je me trouve désabusé, c'est le cinéma qui me cueille, comme une enfant abandonnée, devenant refuge pour mon désespoir devant une humanité qui se délie, qui s'effiloche sur les rebords de ses répétitions. Oui, le cinéma m'a gardée heureuse, dans les salles, mais aussi dans ces cérémonies où on la retrouve, cette humanité, pleine, dense, assumée, portée haut par des êtres qui refusent de céder au monde ce qui les garde humains. Jim Carrey, qui sait dire merci en français, et Golshifteh Farahani, qui prononcent chacun de ces mots cruellement prophétiques. Mais tout mon cœur est dans un pays dont les étoiles ont été réduites en poussière, en sang ou forcées au silence. Récemment, à travers la bruyance enragée des réseaux sociaux, me gardait au chaud, là où je refusais de céder à l'indifférence, au-delà de mon impuissance. Puis, avec l'ami Étienne Beaulieu, Dans les sentiers de cette forêt qu'il a magnifiée, au cœur de notre ville, on a parlé du « pourquoi écrire » qu'il l'avait saisi. Il avait dit alors « Je n'ai plus écrit une seule ligne depuis un an ». Oui, oui, le contexte politique et toute l'incertitude, d'accord, mais les poilus écrivaient dans les tranchées. Dans mon cas, c'est autre chose que j'identifie mal encore et que je vais devoir essayer de comprendre dans cette petite traversée du désert. Ça doit bien arriver, j'imagine, quand on n'écrit pas seulement pour tourner la moulinette des presses sans réfléchir. On avait été plusieurs à se reconnaître alors dans ce mouvement, celui de la vague qui deviendrait lasse de se briser sur les remparts d'une indifférence à la fois sociale et politique. Mais hier, dans les sentiers de Beckett, je l'entendais me dire que la source avait finalement montré quelques signes de vie et qu'elle avait peut-être juste demandé qu'on creuse un peu plus loin, qu'on dégage le chemin jusqu'à elle. Et alors, j'ai éprouvé de cette joie qui fend le cœur de son immensité devant la magique exigence à laquelle chaque artiste est soumis, parce que oui, les essayistes sont aussi des artistes, soit celle de se tenir au plus près de l'authentique en lui-même, sans quoi il deviendra aussi factice que le monde contre lequel il inscrit son geste. Hier, dans le bois Beckett, les arbres, la neige, le soleil de février qui allait mourir à son mois le soir même, et l'ami qui me disait quelque chose comme « Oh non, on n'est pas mort encore », m'ont suffi à relancer mon propre élan. Plus tard, j'ai attrapé ces mots de Sylvain Tesson dans cet entretien avec Augustin Trapenard. Je trouve que la seule chose à laquelle devrait se destiner l'homme, c'est à capter la beauté des paysages et du monde et à la rendre par la musique, par la peinture ou la littérature. Et pleinement encore revenait en moi le désir de contribuer, humblement, aux essaims de poussière que forment nos pensées jetées dans un monde qui se délite parfois sous nos yeux impuissants ou alors qui se hurle déçu à la moindre contrariété. À nous, alors, de trouver la juste dose du silence et du bruit que nous créerons, de mesurer profondément les mots que nous laisserons au suivant dans la grande bibliothèque qui parlera de notre époque à ceux qui nous suivront. C'était « Je te laisserai des mots », un texte de Nathalie Platt, paru le 2 mars 2026 dans Le Devoir.